Tous les jeudis à 9h30 et 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 9h30 et 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Et tous les jeudis, tous les jeudis, c'est l'heure du livre et c'est en live, forcément, sauf pour celles et ceux qui nous écoutaient à 17h30, hein, voilà, en seconde partie ou en fin d'après-midi. Romain Baxer est avec nous et l'invité du jeudi, en l'occurrence, c'est vous. Comment il va ?
Écoutez, très bien, encore mille excuses pour ce petit retard.
Vous êtes un peu speed, vieux, en
oui,
ce moment.
Oui, c'est un peu la rentrée, tout ça, la rentrée littéraire.
Je peux trahir un secret ?
La rentrée d'heure. Oh, mais vous trahissez.
Alors, je viens de m'apercevoir, je ne suis pas toujours fourré sur mon portable. Donc, j'ai un message hier qui me donne donc les titres qui vont être évoqués ce matin. Oui. Alors, je regarde juste l'heure à laquelle le message m'a été envoyé. Donc, à minuit, 0h53. Moi, je dors depuis 2 ans déjà.
Mais il n'y a pas d'heure pour la littérature, monsieur.
Oui, donc insomniaque en plus.
Donc je vous ai quand même précisé, en cas d'insomnie.
En cas d'insomnie,
voici les titres chroniqués demain. C'est vrai que je me suis aperçu un peu tard.
Demain qui était déjà aujourd'hui, puisque c'était minuit 53.
C'était comme quoi le temps.
Oh, le temps, ça va, madame et mon garçon.
Le temps, mais en effet, en préparant mes chroniques, je me suis aperçu que je ne vous avais point prévenu des ouvrages.
Mais un homme averti, des fois. En vaut deux de déçu.
Comme un homme qui lit en vaut deux également.
Je vous l'accorde. 100% Frenchy, la sélection de ce matin.
Oui. C'est vrai que je me suis aperçu que les 3 auteurs que je vais chroniquer sont tous français. Ouais. Voilà.
Dont le premier s'appelle Le Monde Horizontal. Ouais. Ça n'a rien à voir avec votre insomnie.
Non, d'accord. Mais peut-être. C'est que diraient Lacan et Freud réunis. Ouais. Donc Le Monde Horizontal, en effet, c'est le titre du livre dont je vais vous parler un instant.
Un roman érectile
ou pas, parce que là, horizontal, il faut se dresser.
C'est une histoire de casser les perspectives.
Mais tout à fait, vous avez compris, Anthony, aujourd'hui, nous allons parler d'horizontalité et de verticalité avec cet ouvrage.
Pi égale 3,14.
De Bruno Remory, sans doute, et un peu plus de décimales derrière, mais voilà.
16, donc, je crois.
16 000, au moins, des milliards. Revenons à nos moutons horizontaux. Alors, Le Monde Horizontal, de Bruno Remory, aux éditions Corti. Ce sont des éditions prestigieuses, assez rares, c'est-à-dire qu'ils publient vraiment assez peu, quelques ouvrages par an. Corti, des éditeurs orfèvres comme ça, qui publient des textes qui, à leur sens, sont essentiels, tout simplement. Ça, c'est, le type de ligne éditoriale des éditions Corti. Voilà, c'est sobre, comme ça. Donc, Bruno Remory, premier texte publié chez Corti. Le Monde Horizontal. Alors là, on est toujours un peu ennuyé, mais en fait, on est passionné de parler de ce genre d'ouvrage. C'est pas une fiction au sens traditionnel. Il n'y a pas des personnages principaux, un déroulement de l'action.
Vous m'intriguez.
C'est presque entre l'essai, si on peut dire, et la fiction.
Le livre a un format d'essai.
Assez bref. Il n'y a même pas 200 pages. C'est à la fois dense et vraiment limpide. Ça se lit comme un grand verre d'eau fraîche. J'ose la comparaison. En ces temps de rentrée littéraire, vous voyez, où il y a des énormes pavés qui tombent, qu'on doit lire.
Alors, c'est un bon verre d'eau fraîche.
J'étais sûr que ça vous plairait.
Oh, j'adore
comparaison.
Ça.
Parce que voilà, c'est un petit livre précieux, voyez, une petite perle comme ça qu'on peut se permettre de lire entre des énormes pavés à la Yann Moix, à la Amélie Nothomb, vous avez une espèce d'ouverture comme ça, mais vraiment extrêmement rafraîchissante. En fait, donc, qui fait alterner des faits réels et des faits fictifs.
D'accord.
Dans cet ouvrage, pour tout simplement, à la fin du livre, quand vous le refermez, vous avez une image de l'homme. Un grand H. Voilà, de l'homme dans le temps, avec un grand T également. Vous voyez, c'est assez
votre soif est étanchée, du coup, vu que
également,
c'est un grand verre d'eau fraîche.
Oui. Également. Alors, en fait, de quoi s'agit-il? Essayons de rentrer dans ce texte. Il s'organise autour de 3 dates principales. 1506 et 1946. Vous voyez, d'avoir la numérologie.
Les accords d'Évian.
Remory, bien le temps.
Non, pardon, excusez-moi, j'arrête.
Bruno Remori, non, mais c'est là où vous voyez la profondeur s'accommode très bien d'une certaine légèreté, comme l'eau fraîche, on peut en rigoler. Bien sûr, même si le sujet peut être assez profond, une image de l'homme. Alors, qu'en est-il autour de ces trois dates, en fait, s'articulent donc des événements historiques. Alors, en 1906, Félix Regnault a découvert la grotte de Gargas, non loin de Toulouse, grotte ornée, vous voyez, peinture rupestre, enfin plutôt avec, vous savez, tout le monde connaît en fait cette image de ses mains en négatif, vous savez, dans les grottes comme ça, qui sont reproduites.
C'est parce qu'ils étaient dans le noir, en fait.
En l'occurrence, voilà, avec une petite lampe à huile, comme ça, et bien, par effet de pochoir, hein, comme ça, il y a donc dans cette fameuse grotte de Gargas plus d'une centaine de mains, comme ça, où il manque parfois une phalange ou un doigt. Hein. On ne sait toujours pas exactement.
On ne sait pas pourquoi il manque une phalange ou un doigt.
Voilà, est-ce que ce sont des rites? Est-ce que c'est peut-être une ébauche de langage?
C'est déjà. On appelle ça les wakus, les japonais.
C'est
la mafia japonaise.
Peut-être un code d'honneur chez nos ancêtres il y a 25 000 ans. Voilà. On ne sait
les
pas,
yakuza,
mais en fait,
c'est ça.
Peut-être à l'époque, il faudrait voir si ce mot existait déjà, il y a 25 000 ans, donc voilà, est-ce que c'est un rite, est-ce que ça indique, donc en tout cas, ces hommes n'étaient pas aussi sauvages, vous voyez, qu'on pouvait le penser au début du XXe siècle, les premiers...
Des bébés qui sont nés à Rouen, peut-être.
Les premiers homo sapiens, là je ne vous suis pas sur ce sujet, voyons voir, donc en fait... Pourquoi cette date de 1906? En fait, on s'aperçoit à ce moment-là que l'homme préhistorique n'était pas si inculte que ça. On retrouve notamment également dans cette grotte de Gargas des restes ensevelis tout au fond d'un boyau de 60 mètres où il faut ramper dans une espèce de grotte naturelle, de salle naturelle, enfouie dans une espèce de vase, des restes calcinés, donc... d'une incinération qui s'est produite à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un rite extrêmement poussé hein, qui va amener ces hommes préhistoriques à amener tout au fond d'une grotte, comme ça, quelques restes. On voit que c'est un homme civilisé. Donc déjà, ça a commencé il y a 25 000 ans. En 1906, on découvre la grotte, mais il y a également le drame de Courrières. Le drame de Courrières, donc les mines de Courrières, ça résonne un peu comme ça chez nous, alors plus d'un siècle après, hein, 1906. Le drame de Courrières, c'est tout simplement le plus gros drame minier ouvrier de France. Hein. Il y avait 1700 mineurs sous la mine, accident, hein, donc coup de grisou, etc. 1100 sont morts, hein, il n'y en a que 600 qui sont remontés. Et donc on parle, Bruno Remori parle de cet épisode, vous voyez, juste après l'épisode donc, de la découverte de la grotte de Gargas et donc nos origines civilisées, si on peut dire, il y a 25 000 ans, là on s'aperçoit que tout simplement les ingénieurs, pour sauver la mine, ont sacrifié les ouvriers. Voilà.
Voilà. Oh, ça doit bien continuer à exister dans des pays en développement ou des pays qu'on appelle pauvres ou sous-développés.
En fait, tout ça pour mettre en perspective, si vous voulez, cette verticalité, hein, cette potentielle spiritualité qu'on a, avec là cette espèce d'horizontalité, si on peut dire, de développement. Également en lien avec la verticalité de la mine. Enfin, vous voyez, si vous voulez, il y a plein de faisceaux en fait de verticalité et d'horizontalité qui se répondent dans ce petit texte pour vraiment créer cette image, si on peut dire, de l'homme. 1946, c'est le début de Hiroshima. Vous voyez, c'est-à-dire ces débuts où l'humanité prend conscience de sa fin, en fait. Hein, une simple bombe un peu déclenchée tous les holocaustes. Ça fait repenser à la phrase de Paul Valéry prononcée au début du XXe siècle. Nous autres civilisations savons que nous sommes mortels. Bah, c'est récent, ça. Hein, c'est vraiment depuis Hiroshima. On sait qu'avec quelques têtes nucléaires, c'en est fini de l'humanité. Donc, en fait, mettre en relation, vous voyez, tous ces événements. Également, 1506, bon, c'est l'invention de l'Amérique par Amerigo Vespucci. Après Christophe Colomb, vous voyez, c'est un cartographe allemand qui a écrit Amérique parce que Vespucci avait... alors qu'en fait, c'était Christophe Colomb. Là encore, l'invention de quelque chose, hein, l'invention d'un monde, l'invention des États-Unis. Pour revenir et pour conclure, en fait, cette petite chronique qui... Peut-être qu'il vous a un peu perdu, vous voyez.
Mais j'aime bien, justement, c'est ce que j'attends de vous.
Plein de petits épisodes comme ça qui se répondent. Pareil, 1946, Jackson Pollock, allez, le dernier, Jackson Pollock, eh ben, prend la toile et la met par terre. Hein, voilà, toile qui était verticale devient horizontale. Jackson Pollock ensuite se lance dans un travail artistique de toute première importance. Pour terminer sur cet homme horizontal hein, qu'on est peut-être devenu, aujourd'hui, vous voyez, la perte, non pas de la spiritualité, mais de la transcendance. Hein. Là, c'est un athée agnostique qui vous parle.
Ouais, ouais, mais Reiser disait le singe devint con aussi. Hein.
Ouais, ça rentre aussi dans ma problématique. Et donc, pour terminer cette chronique, essayer de vous montrer l'importance de cet ouvrage par rapport donc à cette perte de verticalité ou de transcendance ou de spiritualité, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà ce que nous dit Bruno Remoury. C'est peut-être cela le monde horizontal, un monde dans lequel une vision mythologique de l'espace a remplacé une vision mythique du temps. L'invention de l'Amérique marque le passage de l'âge de la pierre élevée à celui de l'eau étale, et ce monde horizontal, ouvert, extensif et systématique, fait d'horizons indéfiniment repoussés, aura sans doute donné naissance à une chose, le mouvement. L'homme vertical se tenait au centre d'un monde immobile, et seuls les astres tournaient autour de lui. L'homme horizontal n'est plus au centre, les astres sont immobiles, et le mouvement est devenu la règle et le devenir de toute chose. Le monde horizontal est fait de routes et de croisements, et si nous gardons au fond de nous du respect pour l'homme vertical, c'est dans ce mouvement extensif et horizontal permanent que nous vivons. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Bruno Remoury, dont on aime se plonger comme comme dans un grand verre d'eau fraîche.
Oh, j'aime. Oh, ça commence. J'aime quand ça finit. Comment ça a commencé, mon cher Romain. Autre sélection avec des bouquins dans un format moindre. On appelle ça des livres de poche. On va parler de cela, de ce qui se passe ou ce qui se prépare aussi du côté de la librairie Caractère Social Club en filigrane de toutes les animations montoises. On va parler bien entendu de ce week-end, la participation de l'échoppe du maréchal Boscamont de Marsan à la 3e édition du Salon du Disque, ce sera demain soir, et peut-être déjà se projeter vers Mont-de-Marsan Sculpture également. Petite transition musicale pour évoquer un acteur qui chante et qui aura incarné jadis, entre autres, hein, parmi les grands noms des arts en France ou de la politique, un certain Rodin. Il s'agit de Gérard Depardieu qu'on va écouter reprendre Barbara. C'est une petite cantate et très brève, très très brève, et on se retrouve juste après.
MDM, tout un monde.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seul je la joue maladroite. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite comme c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile fa sol do fa. Je te revois souriante assise à ce piano-là, disant bon je joue toi, chante, chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, quelle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière et sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes, la jour au jour pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes, la jour au jour pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite
c'est évident.
Salut à toutes et à tous.
De la sueur, des larmes, des liasses d'argent et peut-être même des produits dopants, c'est la rubrique sport.
Rite del mundo.
Appelez-moi le barde, qu'on écoute un peu de musique.
Et des cuivres qui rutilent.
Radio MDM, la meilleure des radios.
On n'oubliez jamais
ça. Imagine quand même que nous n'avons parlé d'aucun film.
Mais que n'a pas joué Gérard Depardieu, qui n'a-t-il pas incarné de Gaulle à Balzac, j'en oublie à Staline, ou Auguste Rodin, on en parlait, puisqu'on en évoquait Montmartre en sculpture, quand il ne rentre pas dans la peau, il l'interprète aussi, et quelle réinterprétation, celle de Barbara, je vous recommande l'enregistrement de ces concerts, séries de concerts. Où il reprenait la Dame en noir, Gérard Depardieu. Mon cher Romain.
Oui.
Oui, vous arrivez à le temps parce que vous avez trouvé votre info. Le groupe qui va se produire demain soir.
Eh bien, ça sera un super groupe, un super concert, en effet, qui viendra juste après demain soir. Une rencontre littéraire autour de Siméon Baldit de Barral, un auteur donc qui a écrit chez Transboréal Le Voyage en Stop. Un éditeur qu'on aime bien, qui va évoquer tout simplement les problématiques du stop.
D'accord.
Mais de façon purement passionnée, hein, c'est pas un ouvrage didactique, c'est vraiment, moi, Siméon Baldit de Barral, je suis un grand autostoppeur et je vous dis pourquoi, qu'est-ce que j'aime dans le stop. C'est un petit ouvrage très travaillé, qu'on retrouvera d'ailleurs au Youf.
Est-ce que le covoiturage a tué
les questions que je lui poserai. Est-ce que maintenant, on arrête sa voiture en tendant la main, donnez-moi 5 euros pour aller à la ville la plus proche, comme fait maintenant Blablacar.
Oui.
J'ai déjà eu d'ailleurs des témoignages de cela, hein, des gens qui s'arrêtent et qui disent, écoutez, je vous prends, mais vous me donnez 5 euros.
D'accord.
Voilà, donc l'autostop, oui. On verra ce que nous en dit Siméon Baldit de Barral demain soir à 19h. Et ensuite, après, donc, nous aurons le groupe Mystère. Hein, c'est un groupe surprise, en fait.
Dont on va retrouver le nom.
Je viens mais de le programme, le programme. Bien évidemment, Atrisma, merci beaucoup.
Merci Jeannot.
Voilà le trio de jazz progressif, hein, dans lequel Vincent Villenay au clavier, Hugo Raducanu en batterie, la batterie, et Johari Rakotondramasi guitare.
Oui.
Hein, voilà, délivre un univers empreint de passion et de délicatesse, hein, d'un rythme à l'autre. Atrisma joue une musique captivante qui emporte le public dans un voyage à la fois électrique et méditatif. Le voyage, ça tombe bien, comme nous aurons été en stop juste avant. Donc voilà pour demain soir dans le cadre de du partenariat de
avec
la librairie
la troisième
Caractère
édition.
Avec la troisième édition de Confluence Musicale, le salon du disque.
Salon du disque. Mais le programme est tellement dense qu'il est difficile de tout imprimer,
voilà.
Surtout avec votre âge canonique.
Vous êtes né en quelle année, monsieur, déjà
hein. Et vos meurtrissures cérébrales. Alors donc, mon cher Romain, on aura l'occasion de l'évoquer durant le mois d'octobre aussi, il y a la participation de la librairie Caractère Social Club à la 11e édition de Mont-de-Marsan Sculpture. Avant cela,
pour
causer bouquin à mettre dans la poche de la salopette.
Voilà les deux parutions poches de la
ou dans le jean si vous avez un gros cul. Dites-moi.
Certainement. Commençons cette petite chronique en état instable, hein, que vous installez pour notre plus grand plaisir. Alors il s'agit de deux ouvrages dans la collection Babel, la collection de poches d'Actes Sud.
Dites-moi.
Il s'agit de Rester vivant de Pierre Souchon, dont je vous avais déjà parlé en grand format il y a 2 ans et demi. Il s'agissait en fait en Rester vivant, c'est un récit vrai, si on peut dire, un récit autobiographique de cet auteur, hein, qui n'est pas le fils. Hein,
ouais, alors décidément, grand, c'est encore un homonyme.
Qui n'est pas le fils du grand Alain, mais c'est un journaliste, hein, Pierre Souchon, journaliste l'Humanité.
Non, parce que ses enfants s'appellent Pierre Souchon.
Également, en plus, c'est vraiment l'homonyme.
Parfait.
Donc ne confondez pas, hein, c'est vraiment. Là, il y a un
et Rester vivant avec Staying Alive des Bee Gees.
Également, vous pouvez faire les deux, écouter ça en même temps que votre lecture, dont je vais arriver à dire un petit mot tout de même. C'est une espèce d'autobiographie de Pierre Souchon qui est bipolaire. Vous voyez, ça n'empêche pas, hein, d'être un grand journaliste.
Moi, ça ne me perturbe pas.
Non, mais je suis habitué avec vous régulièrement. Ce Pierre Souchon donc raconte, en fait, si vous voulez, c'est son évolution dans les hautes sphères du journalisme parisien. Il a fait une grande école de journalisme. Pierre Souchon, il écrit au Monde, l'Humanité, Libération, mais il est bipolaire. Donc le récit s'ouvre, en fait, il est attaché nu à une statue équestre à Montpellier en train de mâchonner une branche d'arbre.
Ça me revient.
Tout à fait, mais voilà, ça revient petit à petit.
Il mâchouillait quoi déjà
Une branche d'arbre ou un peu de, voilà, des feuilles.
Oui,
il se nourrit. Voilà comment s'ouvre le récit. Il revient ensuite donc un peu sur son parcours. En CM2, l'instituteur lui fait passer un test hein, qu'il réussit et il lui apprend juste après que c'était le brevet des collèges. Voilà, c'est un type un peu brillant. Le rectorat avait conseillé de le faire passer en seconde. Les parents n'ont pas voulu.
Il est
passé en sixième. Et donc, c'est le récit de cet homme entre mythologie familiale. À un moment donné, il raconte qu'il vient des Cévennes profondes. Il est maintenant dans les hautes fers, si on peut dire, parisiennes. Il se dit mais j'ai peut-être trahi ma famille, j'ai trahi mon terroir. En fait, son ami lui dit
culpabilité de la réussite.
Tout à fait.
Sociale, au moins intellectuelle.
Ça arrive apparemment assez souvent chez les transfuges comme ça.
J'en plaisante, mais c'est absolument parisien. Nombreux parents sont confrontés à ça.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout simplement, on a le retournement hein, de cette espèce de mal-être. En fait, son ami, qui, comme lui, a fait un parcours brillant, et vient pareil du même village, lui dit Mais attends, pas du tout. On nous a inculqué les valeurs de l'effort, du travail, de la réussite. En fait, c'est normal qu'on vienne d'un milieu, disons, simple et qu'on arrive. C'est logique hein, dans notre éducation. Donc voilà, c'est très intéressant. Vous voyez, ces retournements comme ça de mythologie familiale. On est tous construits, je pense, sur des espèces de mythes comme ça, hein, d'où on vient, où on va. Et bien là, avec l'ouvrage de Pierre Souchon, Rester vivant, vraiment, on y a plein. Il y a également des éléments de christique sociale. Hein, quand il raconte, par exemple, que un de ses beau-frère lui dit qu'il est au chômage. Souchon lui dit, mais attendez, tu viens de t'acheter un Leica d'occasion à 4000 euros. On n'a pas la même conception du chômage. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, donc, voilà, y a toujours cet aller-retour comme ça entre haute classe sociale et milieu modeste qui est extrêmement intéressant hein, sous la plume de, je le répète, de ce journaliste, Pierre Souchon, qui écrit encore hein, dans les plus grands journaux, même si il s'est un peu fâché avec certains rédacteurs en chef, hein, parce que vous verrez dans ce texte, c'est un langage vraiment cru. Un con est un con, un connard est un connard, etc. Donc, c'est et voilà, vraiment texte, restez vivant dans cette rentrée littéraire hein, surchargée avec ce petit texte de Pierre Souchon en collection Babel. Le second livre de poche dont je vais vous parler sans transition, vraiment extrêmement rapidement, c'est La Rose de Saragosse. On a peut-être déjà parlé de Raphaël Jérusalemi en grand format il y a 2 ans. Là, on est en 1492, en pleine inquisition à Saragosse, où Torquemada, un des lieutenants de Torquemada, le père Arbues, se fait assassiner. Tout le récit va s'articuler autour de la recherche des coupables hein, de cet assassinat en pleine inquisition de ce père Arbues. On va être dans les conversos, chez les conversos juifs, vous savez, qui se sont convertis donc, au catholicisme en pleine inquisition pour éviter le bûcher.
Oui.
Il va y avoir une belle histoire, si on peut dire, entre un hidalgo qui va mener l'enquête et la jeune fille d'une famille riche de converso. C'est un très très beau roman romanesque, si on peut le dire. La Rose de Saragosse de Raphaël Jérusalemi. C'est très écrit et en même temps assez fluide. On rentre vraiment dedans dans cet univers inquisitorial de fin du 15e siècle. Voilà, petit livre de poche aussi à mettre dans la poche.
Allez, à Jacques Taest et Taillot, comme on dit plus communément par chez nous. Mon cher Romain,
voilà.
Filons parce que c'est bon.
Et
rendez-vous très bientôt.
À très vite.
Merci pour tous ces conseils avisés, ne changez rien.
Avec joie.
Ciao.
Au revoir.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 9h30 et 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.